Et puis surtout, les catholiques, les princes catholiques, ou les rejetés notamment par le protestantisme anglais, c'est-à-dire par l'anglicanisme d'abord, d'Henri VIII, et puis par la grande Élisabeth. La grande Élisabeth a fait décapiter sa rivale Marie Stuart, c'est pas pour y reculer devant d'autres exécutions si c'était nécessaire. Et puis après Cromwell surtout, qui va jusqu'à décapiter le roi d'Angleterre pour imposer son puritanisme. Les catholiques chassés par ces persécutions, où vont-ils ? Ils vont en Amérique. Ils vont se réfugier, eux, généralement, dans le sud de l'Amérique, ce qu'on appelle la Virginie, et puis la Louisiane, et puis des Français s'installeront là-bas aussi, très vite. Mais quand les protestants vont commencer d'être vraiment terriblement persécutés, et ça va commencer dès 1620, il va y avoir, même avant, vers 1580, il y a un renouveau de l'Inquisition catholique. En France, on va tuer, brûler, de 30 à 40 000 sorciers et sorcières, entre 1570 et 1600. Qu'est-ce que c'est que ces sorciers et ces sorcières ? Ben, ce sont des libertaires, ce sont des gens qui n'admettent pas le catholicisme de Rome, ce sont des gens qui veulent soigner et guérir à leur façon, ce sont des gens qui, quelquefois, prétendent honorer un autre Dieu que le Dieu que Jésus-Christ. Et puis, il y a les protestants, qui envahissent la France. Ah, qui sont les maîtres dans le Midi, dans le Sud, en Gascogne, en Dordogne, en Camargue, dans le pays Cévenol, bien sûr. Et lorsque commencent les réformes, lorsque commencent les persécutions chrétiennes, eh bien, ces hommes vont fuir. Ils vont fuir en Amérique. Et ensuite, après la mort de Cromwell, quand le roi va revenir en Angleterre et les catholiques avec lui, qu'est-ce que vont faire les catholiques ? Ben, ils vont persécuter les protestants qui ont tué le roi et qui les ont tués autant qu'ils pouvaient. Et bien, ces protestants aussi vont aller en Amérique. Eux vont se rendre dans le Nord. Ils vont aller dans le Nord, et c'est très important déjà ce partage entre Nord et Sud. Ils vont aller dans le Nord. Ils vont aller à Boston, ils vont aller à Philadelphie, plus haut encore, au Canada. Mais ils vont aller surtout dans une ville qui est vraiment, je dirais, le cœur des USA, comme la Rome antique a pu être le cœur de l'Italie autrefois. Cette ville, c'est New York. Or, New York a été d'abord une ville luthérienne qui s'appelait New Amsterdam et qui était donc habitée, créée, fondée par des émigrés luthériens, moitié luthérien, moitié catholique, et qui avaient acheté cette terre, une poignée de dollars, aux Indiens. Célèbre achat de Manhattan par ces émigrés, protestants pour la plupart, catholiques quelques-uns, mais enfin pas tellement calvinistes, pas tellement puritains et peut-être pas tellement anglais, je dirais. Beaucoup plus européens continentaux. Mais tout au long du XVIIe siècle, ce sont les protestants anglais qui sont de plus en plus allés vers l'Amérique. La légende et la réalité datent cette invasion, émigration, de du voyage du Mayflower en 1620, et c'est le grand, la grande origine, si vous voulez, fondatrice de l'Amérique puritaine, le voyage des pères pèlerins, qui étaient presque tous des puritains ou des juifs, et qui vont devenir assez puissants, en quelque sorte, à la fin du siècle, c'était en 1685, je crois, pour non seulement occuper New York, ou le racheter, ou l'acquérir, ou faire des trafics, et finalement devenir assez puissants pour changer le nom de la ville en New York. Non plus la Nouvelle-Hollande, mais la Nouvelle-Angleterre. Nous voyons bien ce balancement, n'est-ce pas, qui va se continuer, mais qu'il faut peut-être préciser mythiquement dès le XVIIe siècle. Voyez-vous, mythiquement, il y a d'une part ceux qui attendent un dieu nouveau, ou un dieu libertaire, ou un dieu libérateur, ésotérique aussi, mystique, occulte, rétrograde dans ses aspects cultuels. Et puis, il y a ceux qui servent le Dieu de la Bible. Or, le Dieu de la Bible, c'est le bélier. C'est celui qui est sorti du buisson pour faire épargner le fils d'Abraham. Quand Abraham voulait tuer son fils et que Dieu lui a dit « Attends un peu », et il a fait surgir le bélier du buisson pour dire à Abraham « À partir de maintenant, vous ne sacrifierez plus vos enfants, mais le chef du troupeau. » Au contraire, les autres se référaient de plus en plus, à mesure que passaient les années et les décades d'années, les autres se réfugiaient, en quelque sorte, dans des religions bien antérieures, des religions païennes, comme on disait, des religions qui remontaient à Sumer, qui remontaient au dieu taureau, qui remontaient au dieu, taureau, Marduk, Apis, les grands dieux tauriques d'Égypte, de Sumer, qui avaient pu exister avant le bélier d'Abraham. Et ce n'est pas le moins étrange que ces deux grands mouvements américains, dès le XVIIe siècle, vont reprendre ces vieux symboles que l'Europe avait complètement oubliés. On n'en parlait plus de ça, du bélier taureau en Europe, qu'est-ce que c'était ? Bon, le taureau, on l'appelait Baal, on l'appelait quelquefois Lucifer ou un diable cornu, puis le bélier, ben oui, on savait que le bélier avait été au fait du temple de Jérusalem. Tout cela n'avait pas d'importance dans la vie courante, disons. La vie courante se passait en dehors de ça. Eh bien, en Amérique, ça va être tout de suite l'opposition fondamentale, pendant deux siècles, entre les bouviers, ceux qui dirigent, ceux qui ont des troupeaux de bœufs, et qui vont donner le fameux cow-boy, le garçon de vache, et qui vont donner les plus grands indiens révoltés de la suite, comme le grand Bull, parce que les indiens se reconnaissent là, ils reconnaissent le taureau dans leur bison, bien entendu. Ce sont des dieux de l'aventure, des dieux de l'Ouest, des dieux de la du désert, de la steppe, de la pampa, en dessous. Les grandes étendues du Texas, les grandes étendues, vers l'ouest toujours, vers la Californie. Et puis les autres sont les bergers qui viennent avec leurs troupeaux de moutons et qui vont essayer, les laineux, comme on les appelle aussi, qui vont essayer, eux, de faire du commerce d'abord, le commerce de la laine pour commencer. Et vous avez vu certainement des films qui montrent cette opposition des bouviers et des bergers. C'est très important, c'est pas rien. C'est loin d'être rien. Quand les bergers s'amenaient dans un pays où les bouviers étaient maîtres, ça finissait toujours mal. On n'élève pas des brebis, on n'élève pas des béliers, on n'élève pas des agneaux comme on élève des bœufs. C'est pas la même chose. Le berger n'est pas un cow-boy. Le berger est un être pacifique. Où le cow-boy amène le outlaw, le grand bandit, le bandit de grand chemin, mais aussi le découvreur, l'inventeur. Eh bien, le berger, lui, il amène l'homme de loi, il amène le juge. Hein, quelquefois, le juge a commencé par être un cow-boy, puis le contraire se passe aussi. Mais enfin, ils sont bien tranchés, tous les deux. Ce conflit du cow-boy et du juge de paix, c'est presque toute l'histoire de l'Amérique pendant 2 siècles. Évidemment, s'il n'y avait que ça, ça n'aurait peut-être pas entraîné la guerre de sécession. Seulement, en Europe, on continue de massacrer des gens, on continue de les persécuter, on continue de les chasser vers l'Amérique. On en était aux Camisards. Ben, les Camisards, quand ils peuvent fuir, ils fuient en Angleterre, évidemment. Ils fuient le massacre en Angleterre, puis d'Angleterre, ils vont en Amérique. Tout au long du XVIIIe siècle, nous allons avoir des... Au long du XVIIIe siècle, en Europe, il se passe quelque chose de très important. C'est que ces deux mouvements religieux dont je viens de parler deviennent des mouvements rationalistes. Je veux dire, ce qui a été des croyances en des dieux mal discernés quelquefois, ou du moins parfaitement étranges, parfaitement liés à leurs livres sacrés, ces dieux donnent naissance à deux façons totalement radicales, opposées, de voir le destin de l'homme. Ces mouvements sont les mouvements francs-maçons. Les mouvements francs-maçons ont pris naissance au XVIIe ou à la fin du XVIe siècle chez les rois et les princes d'Écosse notamment, les Stuarts. Et il s'agissait, dans cette première franc-maçonnerie opérative, il s'agissait de faire des hommes, de tous les hommes autant que possible, des princes. Mais, bien sûr, on ne pouvait pas le faire pour tout le monde, au début en tout cas. On avait le temps. Vous savez, ce sont des mouvements qui se disent, nous avons le temps pour nous, nous avons des siècles devant nous, c'est pas demain que le Dieu va naître, on a tout le temps. C'est pas demain que le paradis va s'instaurer sur terre, non. On a le temps. Alors, surtout les francs-maçons opératifs, ils avaient le temps, ils prenaient le temps. Il disait, on va commencer par quelques-uns. Et les francs-maçonneries anglaises, notamment, vont s'ouvrir, tout au long du XVIIe siècle, aux ouvriers particulièrement doués, aux maîtres d'œuvre, comme on dit, aux poètes, aux peintres, aux bons soldats, aux héros, aux princes, évidemment. Et ces hommes doués, ces hommes qui ont montré leur qualité, on va essayer d'en faire des princes, c'est-à-dire qu'on va leur apprendre, notamment des arts qui vont les élever. Ça sera la danse, ça sera l'escrime, ça sera les jeux d'armes, ça sera les jeux martiaux en Orient. Parce qu'il y a aussi des francs-maçonneries en Orient, en Chine, etc. Ces premières francs-maçonneries s'appellent les triades, triades rouges, etc. On va ciseler, on va modeler, ciseler, c'est le mot, on va ciseler ces hommes pour en faire un peu des surhommes, pour en faire des gens qui seront les maîtres dans leur art, dans leur technique, dans leur pratique, et qui en même temps seront des hommes accomplis, connaissant des langues, sachant danser, sachant plaire, sachant séduire, sachant se battre, sachant... Ça, c'est la première franc-maçonnerie, celle des rois, des princes, qui veulent faire des princes. Mais à partir de 1717, certains hommes, dont le plus connu est Anderson, se font recevoir dans ces francs-maçonneries avec l'idée d'en changer le cours, d'en changer la nature, d'en changer les méthodes. Je vous cite Anderson parce qu'il est l'auteur des constitutions qui vont transformer justement la franc-maçonnerie opérative dont je viens de vous parler en une franc-maçonnerie spéculative. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie spéculative ? C'est la franc-maçonnerie qui, tout au long du XVIIIe siècle, va proclamer que ça ne sert à rien de prendre quelques hommes doués et de leur donner un supplément d'éducation, d'instruction, de finesse, d'aristocratie. C'est pas comme ça qu'on va changer, qu'on va sauver le genre humain. C'est trop long, trop lent, trop incertain. Et puis, c'est un projet, c'est une idée de poète, c'est une idée, justement, d'aristocrate. Et le peuple, alors. Donc, on ne va plus faire ça du tout. On va décider que tous les hommes sont égaux. Et que, par conséquent, il n'est pas question d'élever certains à une aristocratie supérieure, éventuellement, oui, mythiquement. Mais il est question de rabaisser les princes, les créateurs, les novateurs, de manière qu'aucune tête ne dépasse la norme établie. Si tous les hommes sont égaux, eh bien, ils seront libres, parce que l'égalité pour ces francs-maçons, c'est la liberté, et il n'y a pas d'autre liberté que l'égalité. On peut appeler cela la méthode de Procus. Procus était un géant de l'Antiquité qui n'avait qu'un seul lit. Alors il était très gentil quand on venait sonner à sa porte, frapper à sa porte, il n'y avait pas de sonnette électrique à l'époque, quand on venait frapper à sa porte, il recevait très bien le visiteur et puis il le faisait coucher dans son lit. Il lui donnait son lit, on n'est pas plus gentil. Si le gars était un peu trop grand, ben il lui coupait la tête pour qu'il puisse rentrer dans le lit. S'il était un peu trop petit, tirait sur les jambes, de manière à ce que ça, que le gars couvre le lit. C'est un peu comme ça que procèdent les francs-maçons spéculatifs. Il est certain que si l'homme est un peu petit, il va falloir le grandir. Alors, il va y avoir quand même une sorte de catéchisme moral, il y a une sorte d'enseignement politique qui fait que tout le monde va quand même arriver à occuper le lit. S'il a une tête en trop, comme les rois, comme les poètes, comme les créateurs, on coupe. On coupe pas tout de suite, mais à partir de 1789, on coupera vraiment. On coupera la tête de Louis XIV, on coupera la tête de Marie-Antoinette. On coupera la tête d'André Chénier, on coupera la tête de Lavoisier, on coupera la tête de Condorcet. Parce que, dans cette optique, le génie, c'est le scandale. Le génie, c'est le scandale. Ou bien, on admet le génie, et alors les hommes ne sont plus égaux. Ou alors, on supprime le génie, et il n'y a plus de justice. C'est le problème, le génie pose le problème insoluble. Qu'il s'agisse d'un génie scientifique comme Lavoisier ou d'un génie politique comme Chénier, c'est insoluble. À chaque fois, encore, qu'il y a persécution, il y a vase communicant, il y a renversement en Amérique. Et là, nous en avons la preuve la plus manifeste. C'est que tout au long du XVIIIe siècle, alors que les sectaires francs-maçons spéculatifs, socialistes, etc., protestants, bien sûr, sont des protestants, Anderson, j'ai oublié de vous le dire, étaient protestants, et ça va de soi, ces persécutés, ils sont allés, ils sont réfugiés là-bas. Et quand à partir de 89, il va y avoir la persécution inverse. Parce que, on vous dit, et c'est vrai, n'oublions pas, ne tombons pas dans l'excès à notre tour. On nous dit que la Révolution française a imposé l'égalité, a libéré les hommes. C'est vrai, c'est indiscutable. Notamment les Juifs. En 89, une motion Dupont a décidé que les Juifs seraient traités comme tous les citoyens. Et il était temps, parce qu'il n'y avait plus que quelques familles juives à Paris. Les Juifs ne pouvaient pas se faire enterrer, ils n'avaient pas de cimetière à eux. Il fallait qu'ils se fassent enterrer dans leur jardin, derrière la maison. Ils n'avaient aucun droit. Ils n'étaient pas persécutés à proprement parler, dans la mesure où on ne les mettait pas en prison parce qu'ils étaient juifs, mais on leur retirait tout droit. Ils vivaient, on ne sait pas comment, très peu nombreux et privés de tous les avantages, de tous les conforts qui étaient donnés aux autres hommes. Donc les révolutionnaires français ont créé l'égalité d'abord entre les juifs et les autres. Et les juifs, chose plus extraordinaire, les juifs l'ont accepté. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'au 18e, les juifs se considèrent comme le peuple élu, comme la seule race qui a survécu pendant 4000 ans, et que par conséquent, ils n'acceptent pas, ils n'ont jamais accepté les lois des goïms, des non-juifs. C'est un prophète juif dont vous devez connaître le nom, dont vous devez retenir le nom, Baal Shem, Baal, B-A-A-L-C-H, ou certains écrivent S-C-H-M-E-M, Baal Shem. C'est lui qui a, en créant la secte des Kazidim, créé cette chose absolument révolutionnaire dans l'histoire juive. Les juifs doivent admettre le mythe de fraternité, le mythe du semblable, le mythe des jumeaux, le mythe des frères, que Yahvé avait formellement interdit en interdisant l'idole, en interdisant l'image, en interdisant le simulacre aux anciens Hébreux, et que les Juifs, tout au long des millénaires, avaient respecté cette interdiction de Jéhovah. Nous ne sommes pas comme tous les hommes, nous sommes la race élue. À partir de Baal Shem, il sera admis, oh ça sera violent, il y a eu des réactions violentes au sein des communautés juives, notamment en Pologne, en Russie, où les Juifs ont refusé absolument d'admettre le mythe de simulacre, de comparaison, de fraternité, d'égalité, de reflet, de miroir, puisque le miroir était le grand symbole franc-maçon à l'époque. Ils ont refusé tout ça en disant « Non, nous ne pouvons pas désobéir à notre Dieu. » Mais Baal Shem leur a dit « Le temps est venu pour vous d'être comme tous les hommes, de vous fondre dans la communauté humaine, d'oublier votre élection. » Vous aurez un jour, le Messie viendra un jour, votre temps viendra, mais aujourd'hui, il faut vous faire oublier, il faut accepter les pratiques de vos ennemis, et notamment, il vous faut aimer la notion de simulacre, d'observation, l'observation scientifique, c'est ça, c'est le miroir, c'est l'image qui reflète le réel. C'est la même chose qui domine dans le foyer et dans le soleil, dit Newton, n'est-ce pas ? C'est toute la science matérialiste de l'époque est fondée sur cette notion de choses qui se répètent, qui se reflètent. La lune est comme la pomme, dit encore Newton. Le comme, la même chose. Je ne vois pas ça, mais je sais que c'est comme ça, donc je peux en tirer des lois, etc. Eh bien, il faut admettre tout ça, dit Baal Shem, il faut vivre votre temps, et à ce moment-là, vous verrez que vous êtes aussi comme tous les hommes. Et donc, l'action de Baal Shem, puis l'action des révolutionnaires français qui vont dans le même sens, aboutit donc indiscutablement à cette égalisation, en tout cas entre les juifs et les non-juifs, ce qui était primordial. Mais ce qui annulait, bien sûr, tout un héritage de 4000 ans pour les juifs. Seulement, en même temps qu'on reconnaît ça aux révolutionnaires, il faut aussi ne pas oublier que de 1792 jusqu'à 1800, Il y aura des dizaines de milliers de prêtres d'abord, et des centaines de milliers d'aristocrates, d'artistes, de ci-devant, qui seront chassés, qui seront proscrits. Il ne faut pas oublier que le pape lui-même sera finalement enlevé de Rome et qu'il mourra en exil en France l'année même où Napoléon se fera, où Bonaparte sera premier consul. Non, pardon, ou le 18, l'année même du 18 Brumaire. Et ces gens chassés par la persécution laïque, par la persécution socialiste, le mot n'existe pas encore, disons là, révolutionnaire, la persécution révolutionnaire, eh bien, ils se réfugient en Amérique. C'est-à-dire que, au moment même où les méthodistes, où les francs-maçons spéculatifs, où les puritains, où les pèlerins du XVIIe, où les sectes protestantes du XVIe, ont fini par imposer à l'Amérique la République, créer, libérer l'Amérique du joug anglais, et créer les premiers droits constitutionnels, les premiers droits de l'homme. Non, pas les droits de l'homme, c'est la France qui crée les droits de l'homme 20 ans après, mais enfin les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les droits démocratiques, dès la création des USA républicains, à ce moment-là où tout semble terminé, en quelque sorte, par la victoire du progressisme, du rationalisme, de l'humanitarisme, eh bien, cet afflux de gens exclus d'Europe par les révolutionnaires vont créer de nouveau des sectes étranges en Amérique. Je dis secte étrange parce que vont faire les Américains du Sud notamment, dont nous avons parlé, les Texans, les Virginiens, les gens de la Louisiane, les Acadiens français, que peuvent-ils faire contre la marée démocratique du Nord? Eh bien, ils vont se rejeter vers les mythes indiens, c'est étonnant. Ils vont chercher leurs racines en Amérique même. Contre l'afflux des sectes européennes, ils vont dire revenons à nos origines, et nos origines c'est quoi? C'est l'Indien. Et il va y avoir des sectes qui vont s'appeler des Redman des Hommes Rouges, les sectes des Hommes Rouges, sectes européennes, catholiques, chrétiennes, ou du moins... Étrange, mais motivé aussi par ce qu'on appelle des illuminés, par exemple. Les illuminés, ce sont les francs-maçons opératifs qui, chassés par la franc-maçonnerie spéculative, s'étaient justement réfugiés en Amérique, entre autres.